Russia, and you know that answer better than anybody. I never worked for Russia. Not only did I never work for Russia, I think it's a disgrace that you even asked that question.
Bon. Ben c'est clair, ça, quand même, Raphaël. Le président qui doit préciser, non, j'ai jamais travaillé pour la Russie.
Récapitulons ce qui s'est passé. Au courant du week-end, on a eu un rapport explosif du New York Times qui détaillait le fait que le FBI aurait lancé une enquête dans la foulée du congédiement de son ex-directeur, James Comey, par le président Trump, à savoir si, oui ou non, Donald Trump aurait été essentiellement un agent russe, volontairement ou non, mm-hmm. est-ce qu'il aurait travaillé pour le compte de la Russie, ce qui est assez surréel en soi que la police fédérale américaine se pose même la question en premier lieu. Donc, dans les heures qui ont suivi ça, le président a initialement réagi en appelant en direct à une émission de son réseau fétiche Fox News, samedi soir. Bon lapsus. je ne suis pas sûr si tu avais remarqué, mais avec ton sourire, je le vois. Donc,
ça n'a presque
dire,
pas paru.
Non, ça n'a presque pas paru.
Merci de l'avoir souligné.
Alors, on a déjà des bloopers pour la fin de l'année. On est en janvier, donc ça part bien. Donc, ça pour dire qu'il appelle en direct donc, à l'émission de Fox News pour dire que c'est le pire article qui a jamais été écrit sur lui, sans jamais préciser si oui ou non il avait été un agent russe ou si oui ou non il avait vraiment travaillé pour la Russie. Donc, ça l'a comme suivi jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, avant de quitter pour aller prononcer un discours à l'extérieur, en direct de la Maison-Blanche, il dit « J'ai jamais travaillé pour la Russie et c'est une honte que vous me posiez même la question en premier lieu. » Ce qui est intéressant là-dedans, Mathieu, deux choses. La première, c'est la réaction républicaine à ça. La deuxième, la réaction démocrate, c'est complètement opposé, peut-être sans surprise. Donc, le Sénat à majorité républicaine qui promet de demander des comptes au FBI parce qu'on se dit, comment est-ce qu'une enquête de la sorte a pu être lancée en premier lieu? Est-ce qu'il y avait vraiment des doutes raisonnables? Quand même, soupçonner le président des États-Unis, non seulement de, par exemple, prendre une mauvaise décision ou faire preuve d'un jugement, disons, douteux, mais là, carrément, de travailler pour une puissance étrangère, c'est pousser le bouchon pas à peu près. Et on veut demander des comptes au FBI. Comment est-ce que cette enquête-là a pu être autorisée en premier lieu? Alors que du côté démocrate, c'est tout le contraire. On veut de la législation qui, en fait, viendrait protéger formellement l'enquête de Bob Mueller en disant, écoutez, ça illustre à quel point on doit aller au fond des choses.
Bon, nouvelle semaine, même dynamique. La crise budgétaire perdure et il n'y a pas de fin en vue.
Il n'y a pas de fin en vue. Écoute, j'ai l'impression de répéter ça à chaque jour depuis 3 semaines. Ça fait maintenant 3 semaines et demie. 24e jour aujourd'hui. Le record de tous les temps, c'était 21. On l'a battu samedi à minuit, officiellement, minuit et une. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on est coincé exactement dans la même position. Ouais. Le président qui, d'un côté, hésite clairement à invoquer l'état d'urgence. Beaucoup de républicains qui sont très mal à l'aise avec ça parce que non seulement on doute du pouvoir constitutionnel qu'a ou non le président pour évoquer un tel état d'urgence, mais aussi parce qu'on craint les conséquences à plus long terme. Si et quand quand il y aura un autre président, surtout un président démocrate, président de l'autre parti, qui prend les commandes et qui s'inspire de ce que le président Trump aura fait en évoquant l'état d'urgence pour aller chercher de l'argent à droite et à gauche à des fins qui n'étaient pas prévues initialement par le Congrès. Donc, beaucoup d'hésitations et en même temps, du côté du Congrès, justement, à la fois au Sénat et à la Chambre, les négociations sont complètement bloquées. Fait, comment est-ce qu'on sort de ça? À l'heure actuelle, encore une fois, 3 semaines et demie après le début de la crise, il n'y a toujours pas de réponse très, très claire.
Et je voyais à Atlanta, tu sais que c'est un des principaux hubs là, pour l'est des États-Unis, dans le sud-est.
Juste interrompre rapidement, pour ceux qui ne sont jamais arrêtés à l'aéroport d'Atlanta, ils ne réalisent pas à quel point c'est gigantesque. Là.
Et c'est les agents de sûreté dans les transports qui sont moins nombreux en raison justement du shutdown. Et on disait des files d'attente de plus d'une heure maintenant, c'est pas rare. Et on demande même aux gens pour des transports intérieurs d'arriver plus de 3 heures à l'avance pour être sûr d'être capable d'embarquer au bon moment.
Fait que
donc,
ça illustre...
c'est une répercussion parmi tant d'autres.
Exact, mais ce qui est super pertinent à ce que tu dis, c'est que ça illustre que c'est pas simplement les fonctionnaires qui sont directement touchés, qui là commencent à faire les frais de ça. Et il y a des sondages, il y a une série de sondages qui ont été publiés hier matin par plusieurs réseaux majeurs américains, réseaux médiatiques majeurs, et le portrait qui est tissé, c'est le même dans tous les cas, c'est-à-dire que c'est une assez nette pluralité, sinon majorité d'Américains qui blâment le président et les républicains et non les démocrates du Congrès. Donc, l'incitatif politique va vraiment être sur le président pour agir rapidement pour sortir de ça.
Bon, les démocrates se cherchent une vedette là, pour affronter Donald Trump. Il y a 2 nouveaux candidats qui débarquent dans l'arène.
Il y en avait une première qui avait lancé sa campagne extraordinairement tôt, le 31 décembre 2018. Ouais. 2018 pour une élection qui va avoir lieu au final en novembre 2020. Et comme si ce n'était pas assez, là, on en a déjà 2 autres qui sont ajoutés à ça en fin de semaine, Julian Castro et Tulsi Gabbard. pour la plupart des gens qui nous écoutent, ça va être des noms complètement inconnus. Il faudra voir s'ils vont être en mesure de percer. Ce qui va être intéressant à surveiller, je te dirais, à ce niveau-là, ce sont les deux prochaines semaines, parce qu'on pourrait avoir plusieurs très grosses pointures qui officiellement déclaraient leur candidature, incluant l'ex-vice-président de Barack Obama, Joe Biden, qui avait flirté avec une candidature il y a 4 ans et qui, là, pourrait sauter pour de bon en 2020.
Merci beaucoup, Raphaël. Merci je te laisse sûr. Retourner aux chaînes de nouvelles en continu.
Dont on ignore le nom.
Salut. 15h56, on fait le point sur la situation de la salle de cette école primaire qui a été évacuée, une quarantaine de transports hospitaliers.